If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
On attaque tout de suite la quatrième chronique, il est déjà tard, c'est Fibrotique qui va nous reparler de ses open world, de ses morts.
Bonsoir.
Ce lancement.
Bonsoir, ma chronique s'appelle Trop grand pour le regard.
Oh.
Oh.
Alors, vous allez voir que Daz n'a pas le monopole des introductions très longues qui n'ont rien à voir, mais il y a un truc après. Parfois, je regarde les arbres qui se trouvent sur le bord des routes nationales ou des autoroutes, mais un peu loin de celles-ci. Ce sont des arbres sauvages qui poussent dans la zone incultivable laissée à l'abandon des bords de route. Je peux pas les regarder longtemps parce qu'on passe rapidement sur la route et je me dis, qui regarde ces arbres? Probablement personne. Vous pourriez me dire, pourquoi regarder ces arbres? Eh bien, je me dis que peut-être la naissance et la croissance de ces arbres est le fruit d'une bataille épique qui pourrait nous passionner, qui pourrait bouleverser la pop culture, qui pourrait nous transformer. Mais le fait est qu'on a très peu de temps, à vrai dire, on ne regarde même pas les choses essentielles. On ne regarde même pas nos mains, on n'écoute pas notre musique intérieure, on ne regarde pas forcément les gens qui nous sont proches. Alors ces arbres, c'est pour ça que je me dis que l'idée de Dieu est utile. Si Dieu existe, alors il a passé l'éternité à attendre le début et la fin de l'épopée de la vie de chaque brin d'herbe et a vécu sa courte vie intensément, tirant des leçons puissantes et uniques pour chacun d'eux. Si Dieu existe, alors tout n'est pas perdu. Revenons au jeu vidéo. Le jeu vidéo est, selon certains, une forme d'art parfois plus grande que sa simple dimension. Prenez Shadow of the Colossus. Par exemple, Shadow of the Colossus, c'est l'un des jeux, entre guillemets, artistiques les plus étudiés. Hein. C'est quand tu es un étudiant en jeu vidéo, en général, tu dis que c'est ton jeu préféré. Il a fait notamment la couverture de Beaux-Arts Magazine en France. C'est assez rare. C'est le seul jeu vidéo qui a fait la couverture de ce magazine. Shadow of the Colossus a été étudié dans tous ses recoins géographiques et même au-delà. Parce qu'il y a des gens qui ont hacké le jeu et ils ont vu, au-delà des limites du jeu, de nouveaux lieux, des éventuels titans qui n'ont pas été intégrés dans le jeu. Ils font un peu le même travail que les experts en art font avec la Joconde. Ils essaient de comprendre toutes les dimensions du jeu parce que derrière du jeu, il y a la fascination qu'on porte pour lui et il y a aussi un peu de nous-mêmes. Des fans de Pokémon, je m'adresse à toi, Ken Bogart, connaissent toutes les règles, tous les secrets et tous les sprites du jeu et toutes leurs configurations. C'est faux. Pas toi, mais il y en a qui le connaissent.
Toujours pas ma table des types. Mais ouais, tu as raison.
Voilà. Il est possible, en fait, de circonscrire Pokémon. Si ton projet, un peu comme moi, j'ai envie de finir en attaque, si ton projet, c'est de dire, moi, Pokémon, je veux le connaître intégralement, c'est faisable. Mais depuis peu.
Comme à la naissance?
Comme à la naissance, c'est-à-dire quoi?
Ah non, c'est circoncire, hein, d'accord.
Oui,
non,
circonscrire.
Oui, d'accord.
Okay. Mais depuis peu, le jeu vidéo a basculé dans l'inanalysable, le trop grand pour le regard, le trop grand pour l'être humain. Prenez un jeu comme Assassin's Creed Odyssey. Ce jeu n'est pas l'œuvre d'un Léonard de Vinci, c'est l'œuvre de milliers de gens. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant de comparer la construction des pyramides d'Égypte avec ceux qui désormais les reconstruisent numériquement. Ce sont des salariés, parce que les esclaves de Pharaon, ils étaient payés, hein. Ce sont des salariés qui finalement brûlent leur vie dans un crunch épouvantable, pour des raisons futiles. Dans un cas, c'est pour un jeu, dans un autre cas, c'est pour un tombeau. Comme c'est l'œuvre de milliers de gens, il est en retour impossible de vivre totalement le jeu pour un simple être humain avec une durée de vie limitée. Vous ne pouvez pas errer dans Assassin's Creed Odyssey ou dans Red Dead Redemption 2 et contempler chaque arbre du jeu. Ces arbres sont ceux comme ceux dont j'ai parlé au tout début de la chronique, ou qui sont au bord de la route. Ils ont peut-être un sens, ils ont peut-être une histoire, ils ont certainement un jardinier, quelqu'un qui l'a posé, mais ils seront ignorés. Il nous est impossible désormais de vivre ce type de jeu totalement, alors qu'autrefois on pouvait vivre des jeux totalement. Pokémon, on pouvait le vivre totalement. Aujourd'hui, on ne fait que passer à toute vitesse sur l'autoroute de la quête principale, qui nous mène vers le prochain jeu, des fois même on arrête avant, sans nous arrêter. Est-ce que c'est triste? Ben, moi, je trouve que j'ai un peu de tristesse par cette situation. Parce que, en fait, tout comme les tombeaux d'Égypte, eh ben, le travail inutile, le travail qui n'est pas reconnu, c'est toujours triste. Est-ce qu'il y a un dieu qui va regarder tous les arbres d'Assassin's Creed? Eh ben, peut-être. Parce que contrairement à Mona Lisa, les jeux sont des œuvres que tout le monde a chez soi. C'est une Mona Lisa qu'on peut copier-coller, en quelque sorte. On peut se composer et contempler chacun un arbre. On pourrait distribuer la, par exemple, moi, je veux dire, je vais connaître à fond qu'une petite partie du jeu et on distribue ça entre tous les joueurs de toute la planète. Et ainsi vivre à fond le jeu intensément en réunissant l'expérience collective de l'ensemble des joueurs. C'est ainsi vers ce quoi nous allons. En fait, on est passé d'œuvres d'art qui sont circonscriptibles par un être humain, d'un tableau, d'une musique qui parle à un être humain, à des œuvres qui ne peuvent être vécues totalement que par la collaboration à terme de toute l'humanité. En fait, en ce moment, on fait un truc assez dingue, c'est qu'on construit des jeux vidéo qui sont plus grands que les hommes. Peut-être un jour, on va même devoir créer des robots ou des IA qui joueront au jeu entièrement à notre place pour pouvoir être capable de dire que ce jeu a été fait dans son entièreté. Et ça arrive déjà pour certains jeux obscurs qu'aucun humain ne peut finir, qui sont, par exemple, sont trop compliqués, trop durs, mais on met un robot pour le faire. Il y a une partie de The Stanley Parable, par exemple, qui n'est pas faisable, une fin qui n'est pas faisable si vous programmez pas un robot en dehors du jeu pour pouvoir atteindre cette fin. À ce moment, enfin, quand on créera toutes ces entités, qui permettront de vivre les jeux entièrement, mais peut-être que le jeu finalement se détachera de l'humanité pour devenir quelque chose qui nous échappe. Alors quoi? Je ne sais pas. C'est la fin de ma chronique.
Ah, d'accord.
Ah, c'est un peu abrupt, mais je suis arrivé au bout de mes idées. Voilà.
Très 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 abrupt, en effet. Je ne sais pas quoi tirer de tout ça. Je dois bien vous avouer.
Mais une vision poétique quand même. Hein.
Ouais, la morale de l'histoire, c'est qu'il fallait mettre en première chronique au moment où on avait encore la pêche, tu vois.
Ah, c'est super. Moi. J'aime bien cette idée. En plus, il y a plein d'analogies avec Pokémon. J'aime beaucoup l'idée. Mais tu penses qu'on devrait s'arrêter, Fibre? Le jeu vidéo devrait s'arrêter dans son ambition démesurée de grandeur?
Ben, je sais pas, mais en tout cas, quand j'étais petit et que je jouais à des jeux, déjà, les jeux, on les achetait cher. Il n'y en avait pas beaucoup. Et quand tu avais un jeu, tu sais, ce fameux truc, tu as un jeu et tu le ponces parce que tes parents t'en achètent pas un autre. Et tu le connais par cœur, de chez par cœur, tu connais. Moi, j'ai des point and click, je connais toutes les répliques, je connais toutes les musiques à la note près. Et parce qu'en fait, tu joues en boucle et tu le connais bien. Et en fait, tu le consommes à fond. Et aujourd'hui, c'est pas que j'ai plus le temps de le faire. Mais surtout, si j'étais né aujourd'hui, je ne pourrais pas consommer à fond comme je le faisais avant, parce qu'aujourd'hui, les jeux sont trop grands, tout simplement. Voilà.
Et j'avoue, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile de connaître les jeux dans leur entièreté.
Pourtant,
vous êtes d'accord avec... Ouais.
Bah justement, en fait.
Justement.
Quoi?
Daz, justement. Allô? Oui, Daz?
Daz, on a perdu Daz.
Daz, où es-tu?
On n'a pas eu
Daz. Non, t'entends plus, Daz. Daz, on ne t'entend plus. Ouais, magnifique. Petite coupure. L'âme.
Le disque dur de Daz est peut-être arrivé.
Non, c'est bon, je suis là. Je suis là.
Ah, c'est bon, parfait. Bon, je vais aller redistribuer la parole. Daz, que se passe-t-il? Ok, il est reparti. Très bien.
On t'entend pas.
On t'entend que quand tu nous demandes si on t'entend. C'est terrible.
Ah, bah donc là, c'est bon.
Oui, là, c'est bon.
On t'entend.
Ah, ben voilà, ok, très bien. Excusez-moi, un petit problème de matériel. Oui, non, je parlais du fait de platiner un jeu, tu sais, de donner des succès à l'infini, de
Ça n'a rien à voir avec connaître l'entièreté de ton jeu, ça.
Ben si, parce que ça te force, tu vois, les noix Korogu à la con dans Zelda, si tu veux toutes les choper, t'es obligé de te balader absolument partout sur
tout
la
à
map.
Fait, d'accord. Est-ce que tu te souviens de ce que chaque Korogu te dit à chaque fois que tu récupères...
Tu m'as trouvé.
Voilà, c'est ça. C'est toujours la même phrase. Mais en fait, c'était le contrepoint de... on prend plus le temps d'explorer les jeux. Parce qu'en fait, là, on te force. Les gens qui veulent absolument... Les complétistes de là, qui veulent absolument 100% de succès, machin, eux, ils sont obligés de... Justement, de se forcer à...
Ah non, mais moi, par exemple, Assassin's Creed Odyssey, et Dieu sait que ça m'a pris du temps, j'ai fait tous les lieux. J'ai cliné tous les lieux. J'ai fait toutes les énigmes, j'ai tout fait. Mais même ça, honnêtement, j'ai pas vécu le jeu à fond. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je faisais que foncer. J'ai pas regardé les villes comme elles le devraient, tu vois. J'ai pas regardé ce que font les gens dans la ville. Ouais. Et je trouve que c'est, enfin, j'ai même, je trouve que c'est vertigineux, ça fait même un peu peur. C'est-à-dire que on joue tous à ces open world qui retranscrivent des vies virtuelles, mais en fait, on les regarde pas, tu vois.
Est-ce que tu te sens comme ces gens qui écoutent les podcasts en vitesse accélérée, par exemple?
Mais, non seulement ça, mais je me dis qui aujourd'hui fait moi je connais quelqu'un, un fou sur Game Cult, qui par exemple qui faisait Red Dead Redemption à pied, sans courir, tu vois. Ouais. Donc t'as des mecs qui sont dans la contemplation totale, mais même je trouve qu'en fait on les jeux sont tellement grands qu'on ne peut plus en profiter, tu vois. C'est paradoxalement.
Donc il faudrait les réduire pour forcer les gens en fait à
faire des lignes droites, c'est tout, il y a pas besoin de...
Non, parce que moi j'aime bien cette notion, par exemple, d'être capable de te repérer dans un open world de mémoire. Et il me semble que c'est toi, Chloé, qui en parlais dans... Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, voilà, de se dire qu'en fait, le truc reste à taille suffisamment humaine pour que t'aies toi-même tes propres repères dans l'univers et que tu puisses te rappeler des endroits. Et je trouve ça ultra cool, en fait, comme vision. Et du coup, effectivement, le seul truc de cette idée-là, bah, c'est qu'effectivement, il faut que tu réduises la taille de l'univers et que tu te débarrasses de ce qui ne sert à rien et qui est, en fait, un peu comme les épisodes filler qu'on a dans les séries, où en fait, sur une saison, t'as 4 épisodes qui servent à que dalle. C'est, ils sont juste là pour dire, on fait 12 épisodes sur la série, tu vois. Et je pense qu'effectivement, il y a pas mal d'endroits dans un open world où finalement, bon, t'y vas jamais, t'en as rien à foutre. C'est juste là pour dire, on l'a mis et ça permet d'agrandir la zone de jeu, même si finalement, fondamentalement, tu t'amuses pas avec, tu vois. Donc je rejoins un petit peu Fibre sur l'idée du... Ouais, vas-y, excuse-moi.
Oui, vas-y. Non, j'allais dire justement là-dessus, notamment sur Assassin's Valhalla, je trouve que ça se voit pas mal dans certaines régions. Là, moi, je commence hors Norvège, je commence ma troisième région, mais la deuxième que j'ai faite, donc c'est la Mercy. Et sur la carte, en fait, tu vois quand même énormément de zones de vide où, tu vois, ils ont même pas réussi à placer un trésor à trouver ou une sous-quête. Et alors autant il y a une des premières parties, enfin la première zone que t'as, je crois que j'ai quand même bien ratissé. La deuxième en fait, bah juste voilà, t'as plein d'endroits où je suis passée juste en vitesse à cheval, mais en fait il y a juste rien à faire. Et donc c'est ok, bon c'est sympa, c'est joli, mais en fait c'est bien
pour l'impression de grandeur justement d'être un tout petit dans un monde super vaste, mais effectivement d'un point de vue ludique du coup ça sert à que dalle.
Ouais, mais même en fait il y a des jeux, alors par exemple vous qui êtes des joueurs de Street Fighter, il y a des stages de Street Fighter à mon avis qui vous ont marqué, le Bouddha couché, t'en parlais dans ta toute première chronique, et en fait ça nous a tous marqué, on le connaît par cœur, on le connaît par cœur, et ça, si tu veux, déjà le travail de l'auteur, il est reconnu, tu vois, c'est agréable, et on en a vraiment profité. Et là, il y a peut-être des Bouddhas couchés dans Valhalla, j'y crois pas trop, mais il y a peut-être effectivement des choses comme ça, et peut-être même que c'est genre dans les solus en ligne, allez-y, c'est marrant, il y a un easter egg, whatever, mais en vrai, aujourd'hui, on est dans la complétion d'objectifs, qui fait qu'on ne regarde même plus les choses et il y en a trop de toute façon. Voilà.
Et même au niveau des sons, je suis sûr que dans certains open world, il y a des musiques, des sons, tu les entends jamais quand tu fais le jeu. Tout simplement parce qu'ils sont dans des cas tellement particuliers, dans des endroits tellement particuliers que ça se trouve, tu vas pas, t'entends même pas tous les sons du jeu. Voilà. Donc, t'as des gens, ils composent une musique que 90% des personnes qui font le jeu vont peut-être pas entendre.
Ouais. Et en fait, j'ai toujours cette peur que dans 20 ans, on regarde nos pratiques de joueurs et on disait, mais ils étaient complètement cons, tu vois. Genre, ils tuaient des gens toute la journée. Et là, en fait, j'étais vertigineux, je me dis, dans 30 ans, les gens disaient, mais pourquoi ils ont fait un jeu comme Odyssey? Je comprends pas. Il est impossible à finir. Enfin, tu vois, ils ont dépensé des centaines de millions d'euros.
Des millions d'euros.
Pour faire un truc qu'on peut pas finir. Ils étaient fous, les gens, tu vois. Et c'était peut-être ça, c'est peut-être ce que je me dis, tu vois.
Mais d'un autre côté, il y a quand même un réflexe. Moi, je me rappelle que quand j'ai découvert l'open world de Breath of the Wild, qui pour moi, d'un point de vue ludique, est un des jeux qui a le mieux utilisé la notion d'open world. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu quand même un petit c'est pas si grand que ça en fait.
Parce que c'est à l'échelle d'une ville, ils l'ont pensé pour être à l'échelle d'une ville. Parce que justement, ils voulaient que le jeu, tu puisses te souvenir de quasiment tout.
Bah ouais. Ouais. Alors du coup, ça, si tu veux, ça marche. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs de ce jeu, tu vois. Mais sur le moment, c'est vrai que en fait, on est toujours habitué. Enfin, tu sais, t'arrives un peu à l'américaine, quoi. Il faut que ça te pète à la gueule, que t'aies des trucs dans tous les sens et tout. Et j'avoue que les premiers instants sur le après le plateau du prélude, quand tu commences à découvrir la map, tu fais ouais, ok, bah c'est pas si grand que ça, tu vois. Et maintenant, effectivement, avec le recul et après avoir poncé le jeu, je dis bah c'est génial. En fait, c'est très bien. Mais tu vois ton côté. Le côté ça, un petit peu...
C'est un de nos défauts de joueur. Enfin, tu vois, par exemple, là, je reprends sur Assassin. Quand tu dézoomes la map, moi, je la trouve pas si grande. Et du coup, voilà. Je me dis genre... Oh,
il y a toute l'Angleterre à l'échelle 1.
Ouais, mais tu vois, genre, oh, c'est pas aussi grand que ça. Et ça m'avait fait pareil aussi sur... Enfin, de manière un peu différente, sur Red Dead Redemption 2. C'est vu que la carte, en fait, elle s'affiche au fur et à mesure que tu explores.
Ouais.
Et ben quand arrive le moment où en fait ça y est, tu sens que t'as tout défriché ou quasiment tout défriché, surtout quand tu comprends que toute la zone à l'ouest qui n'apparaît pas, c'est parce qu'en fait elle n'apparaît uniquement que dans le post game.
C'est ça.
Et ben t'es là genre ah mon dieu, mais c'est pas possible, en fait je suis déjà arrivé au bout de l'exploration. On est à 100 heures de jeu, hein. Mais mais tu te disais genre oh non, c'est déjà fini, oh non, j'ai exploré toutes les zones, c'est dommage. Et donc oui, ça, je pense que c'est aussi un de nos mauvaises habitudes de joueurs, c'est qu'on veut ce qu'on veut, on veut des grands espaces. Mais je pense que les open world qui nous marquent, en fait, c'est ceux qui sont bien pensés. Et Zelda marque parce qu'il est bien pensé. Celui de Red Dead Redemption 2, moi, m'a marqué parce que je trouve qu'il est extrêmement bien pensé, qu'il est suffisamment varié pour que tu sois pas lassé. Enfin, il y a les zones sont quand même bien marquées, mais avec des transitions qui sont quand même bien faites entre les zones marécageuses, entre les zones de montagne, entre les zones de plaine, etc. Donc t'as quand même de quoi t'amuser. Et après, oui, t'as des open world. Tu vois, je parlais l'autre jour de Ghost of Tsushima, il y a quelques numéros de quête latérale de ça. En fait, ce que j'avais trouvé ça chouette, c'était la direction par le vent. C'était le fait que tu n'es pas un GPS, c'était plutôt le vent qui te guide pour te dire il faut aller par là, par là, par là, par là. Mais après, quand tu regardes le monde en tant que tel, l'open world en tant que tel, il n'est pas non plus fantastique.
Bah, t'es sur l'île de Tsushima, donc forcément, voilà. C'est à peu près tout le temps dans le même décor, en fait.
Dans le journal, il y avait Indy qui nous avait parlé de The Pathless, qui est apparemment un jeu extrêmement porté sur l'exploration et le plaisir de te balader, d'explorer, qui est apparemment un jeu qui est entre Journey et Breath of the Wild, il en est beaucoup de bien. Et ça m'a donné... Ouais. Et l'autre jeu aussi qui me marque, je vais reparler de lui, c'est Cyberpunk. C'est pas parce que c'est un bon open world Cyberpunk parce qu'on n'y a pas joué, voilà. Mais il résume aussi mon fantasme qui, à mon avis, ne sera pas trop réalisé, mais peut-être un peu plus de la verticalité. Parce que pour moi, aujourd'hui, les open world, c'est des flaques d'eau. Et je rêve d'un open world où littéralement un gratte-ciel de 100 étages de haut, bah c'est comme une région entière, en fait, parce que à la verticale il est immense. Et je rêverais que la ville de Night City soit peut-être pas moins étendue que celle de Watch Dogs, mais que par contre sa verticalité me foule le vertige entre les gens, je sais pas moi, les plus bactères qui vont au 8e sous-sol sous le métro et les égouts, jusqu'à monter dans des immeubles de corporations très hauts. Donc je sais que ce sera pas vraiment réalisé, j'y crois pas trop. Et moi, mon prochain rêve d'open world, c'est plus ça. C'est un open world avec de la verticalité. Et en fait, t'as un truc qui est en trois dimensions. Là, aujourd'hui, la plupart des open world, c'est des open world qui sont en deux dimensions, quoi.
Donc, il y a aussi un open world allemand qui s'appelle Outward. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Et en fait, il a cette spécificité qu'il n'y a pas de carte. Et imaginez un grand open world sans carte et sans indicateur de carte, donc justement. Donc, ouais. c'est tout con, mais ça change beaucoup l'expérience.
Ouais, j'imagine. Personnellement, j'ai toujours des a priori un peu négatifs quand je me lance dans un open world. Hein. Je dois bien vous avouer, Breath of the Wild a réussi à faire son petit bonhomme de chemin. C'est vrai que GTA V est un open world aussi, donc c'était plutôt sympathique. Mais après, tout ce que j'ai essayé, globalement, l'open world a plutôt été une punition qu'autre chose. Et même dans les JRPG qui... Franchement, les JRPG, t'en as pas beaucoup parlé, et pourtant, je te jure qu'ils ont subi exactement ce que tu racontes là, mon très cher.
Ah bon, moi je trouve pas. Moi, un JRPG comme Lost Odyssey, tu vois, par exemple. Moi, je le connais vraiment sur le bout des doigts, quoi.
Mais c'est vieux.
C'est vieux ça, Lost Odyssey, c'est vraiment vieux, mais tu joues au dernier Xenoblade ou à des trucs comme ça, ils ont le syndrome de faut que le monde soit gigantesque, faut que ce soit un open
world. C'est beaucoup trop grand.
Et c'est beaucoup trop grand, et je peste sur ces jeux-là, et j'ai terminé Xenoblade.
Excuse-moi, c'est quel jeu Xenoblade? Il est trop
grand. Xenoblade, ouais, j'ai pesté sur Xenoblade, alors que je l'ai terminé, parce que sincèrement, sur les 50 heures qui ont composé mon jeu, j'ai passé 20 heures à marcher dans du vide. Dans du vide avec rien, juste aller d'un point A à un point B. Alors oui, c'est joli, mais les temps de déplacement sont trop longs. Ouais. Tout ça est inutile.
C'est le remplissage moderne. Ça, c'est vraiment le jeu à l'envers pour augmenter la durée de vie. Là, c'est la même chose.
Ouais.
C'est vraiment pour dire que le jeu, il a passé la barre des 100 heures de durée de vie et pas 70 parce que.
Mais j'ai la même remarque dans Horizon qui m'a fait rage quit Horizon pour ça, alors qu'Horizon c'est plus petit que Breath of the Wild. Hein. D'ailleurs, tu joues un peu à Horizon, au bout de 10 heures, tu te dis ah ouais, c'est la map, c'est que ça. Et pourtant, ça m'a frappé à quel point le jeu m'a fait ressentir l'ennui complet du déplacement. Et le summum absolu de tout ça restera Red Dead Redemption 2, où alors là, mais c'est même pas l'ennui du déplacement, c'est l'absurdité totale masquée sous fond de RP, mon cul, du déplacement.
Ah, et non, mais tu n'as pas adhéré, c'est tout.
D'une débilité à un niveau cataclysmique, là, pour le coup, je n'ai même pas d'autres mots. Pourquoi une téléportation n'existe pas dans ce jeu, c'est absurde. Et sincèrement.
Il y a de la téléportation, hein, dans Radio.
Non, mais arrête, fous-toi de ma gueule. Il faut aller dans le pays
intime. Il faut aller dans le
camp. Voilà, prendre un train, ça te.
Non, en fait, il faut upgrade ton camp. Quand tu upgrades ton grand,
tu téléportes qu'à des points à la con, t'es obligé de faire des trajets à cheval. T'es obligé. Ouais. Ne serait-ce parce que le jeu, dans les quêtes principales, t'y oblige, littéralement, parce que tous les dialogues se passent à cheval. Et si tu dévies de la route, on te dit, bah non, il y a le dialogue qui se passe à cheval. Donc écoute, le monsieur, s'il te plaît. Sincèrement, ça a été une plaie. Et dans les 60 heures de jeu, tu te rends compte que les trois quarts du temps, c'est déplacement. Je vous jure qu'il y a des moments où je programme le cheval à un point A. J'appuie sur le bouton de ces cinématiques mode et je vais pisser et je reviens et mon cheval est encore en train de se déplacer pour retourner à Pétaouchnok ou au campement. Non, c'est pas bien. Franchement, je vous jure, c'est pas bien.
Mais d'un autre côté, enfin, t'as des jeux dont le setting, tu vois, enfin là c'est Red Dead Redemption, c'est le Far West, c'est la conquête de l'Ouest, c'est les pionniers et tout, donc t'es obligé,
c'est
tu vois, d'avoir.
C'est
un jeu. T'es obligé d'avoir un côté un peu immense.
Où tu te bats contre des crocodiles dans les bayous que tu vois pas, où tes armes à feu elles marchent dans l'eau. Enfin, fous-moi la paix, Daz. Non, c'est pas réaliste.
Attends, je suis pas en train de défendre le jeu. Moi, je sais que j'ai arrêté d'y jouer parce que l'ergonomie était atroce et que au bout du troisième cheval tué alors que je voulais le garer, voilà, j'en ai eu plein le cul. J'ai arrêté de jouer au jeu, quoi. Tu vois, avec les menus contextuels qui sont pas logiques, etc. Mais c'est pas le côté open world qui m'a fait chier, moi. C'est vraiment le côté ergo, parce que l'open world dans ce cas-là, je trouve que le cadre s'y prête. Si tu fais Red Dead Redemption, mais avec les bagnoles de GTA, en fait, la map, tu l'as fini en 12 minutes parce que une voiture va plus vite qu'un cheval et du coup, tu vois, t'es obligé d'ajuster les distances.
Mais gageons que je remets pas en cause l'open world. Hein. Je remets en cause les temps de déplacement dans cet open world qui ne me font profiter de rien et qui me font juste perdre du temps de jeu pour un gain qui est nul. Ah si, le gain pourrait être de profiter justement de l'environnement comme Fibre m'y invite, mais c'est tellement contraignant d'attendre. C'est comme
putain, Ken,
de vivre un temps de chargement perpétuel. Tu
faut
vois.
Pas que tu joues à Star Citizen parce que ça va te rendre fou, vraiment.
Oui, non, mais bien sûr, ça va me rendre fou. Mais après, il y a d'autres choses. Si tu joues à Flight Sim et que ton but, c'est juste le déplacement, c'est le but du jeu. Tu vois, le déplacement. Là, dans Red Dead.
Non, mais justement, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis que un jeu comme Star Citizen où c'est des missions, mais que une mission t'oblige à un moment donné à traverser le système et c'est 55 millions de kilomètres et tu voles en ligne droite, y a même rien à regarder parce que t'es dans un tunnel hyperespace et ça dure un quart d'heure.
C'est insupportable pour moi.
Je pense que ça va te faire péter un boulard, ça, c'est certain. Mais il y en a, par contre, qui célèbrent ça, tu vois, de se dire, le monde est vaste et du coup, tu peux pas non plus y aller en un claquement de doigts. Et je comprends la.
Sincèrement, je comprends. Moi,
on est taxi parce que un bon open world, l'open world est un acteur à part entière. Et dans GTA, lequel GTA 4, J'aimais bien prendre le taxi. Ouais, j'aimais bien prendre le taxi pour me balader et me déplacer, en fait. C'était ma téléportation lente à moi, mais du coup, avec la
musique. Stylé, tu l'as fait comme Tom Cruise dans je sais plus quel film, là.
Ouais, Collateral Damage.
Voilà, collateral. C'est ça. Non, Collateral tout court, ouais. Ah, stylé.
Moi, j'adorais jouer comme ça, en fait. Mais bon.
De jouer comment de prendre
des taxis.
De prendre des taxis pour aller d'un point A à un point B. Donc, en fait, c'était pas la téléportation, mais l'open world de GTA était tellement plaisant à l'époque, il m'avait tellement marqué que j'aimais le vivre de manière passive.
Le taxi, il t'emmenait vraiment. Tu le voyais, d'accord.
Bah, comme les calèches dans Red Dead Redemption.
Oui, bien sûr, c'est très rockstar, quoi. Mais je comprends que ça te casse les couilles, Ken. Et après, je pense qu'il y a des jeux où ça casse les couilles.
Ce serait rigolo, mais dans Red Dead, enfin, je sais pas si tu l'as fait, l'âme.
Non, je peux pas. C'est trop lourd, dingue.
Dans Red Dead Redemption, c'est pendant 60 heures.
Ouais.
À la moitié de ton temps de jeu, je te mens pas, c'est ça. La moitié de ton temps de jeu.
Mais j'ai une théorie de la conspiration comme quoi, en fait, Red Dead Redemption est la propre métaphore de son jeu. C'est-à-dire que, en fait, le game design est ancien. C'est le même game design que dans le premier
Red Dead.
GTA. Dans le premier GTA, là.
Oui, GTA.
Le GTA San Andreas, ouais. Tu vois. C'est la même chose, ça n'a pas bougé depuis. Et en fait, Red Dead Redemption 2, dans le fond, parle de gens qui étaient des cow-boys, qui vivaient à l'ancienne, et aujourd'hui, ben, la civilisation les rattrape, et ils commencent ils perdent pied. Dutch Van Linden, c'est ça son truc, c'est hyper pied, parce que ils se sentent un petit peu nuls. Et je me dis, est-ce que c'est pas finalement le récit du game design rockstar, tu vois, qui est en train de vieillir face à d'autres gens ça reste des puristes d'une certaine façon, mais ils ont pas bougé alors que le monde bouge.
Ben non, moi je trouve que justement GTA V qui est sorti en 2013, il est encore parfaitement jouable aujourd'hui, donc je pense que c'est pas un game design qui est vieux, c'est un game design qui est volontairement passéiste pour Red Dead parce que ça se passe au 19e siècle, en fait, et je trouve ça malin. Moi, c'est vraiment l'ergo du jeu qui m'a fait péter un câble. Mais
c'est vrai que c'est dur. Hein.
Les déplacements, l'ergo, c'est vraiment tu gardes ton cheval, tu tues un passant parce que le bouton atteler ton cheval, c'est le bouton dégainer son flingue et tirer. Enfin, voilà, moi ça m'a fait devenir fou. Mais n'empêche, en fait, j'ai pas l'impression que ça soit si archaïque que ça. Enfin, c'est volontairement archaïque. C'est pas archaïque parce que les mecs savent pas faire de jeu. Tu vois, puisque GTA V marche très bien. Donc, c'est juste que les mecs, ils ont dit, le 19e siècle, les gars, on va vous montrer que c'est pas GTA chez les cowboys. C'est pas, justement, ils ont pas fait comme Ubisoft fait, à savoir un skin pack qui reskin un jeu et boum, ça y est, c'est un autre titre. Tu vois. Ça, c'est une spécialité d'Ubisoft. Tu peux retrouver les assets d'un titre à l'autre. Là, les mecs, ils ont dit, bah non, en fait, vous allez voir que si vous attendez à faire pampan comme dans GTA, bah, Red Dead, c'est pas cet état d'esprit-là. C'est plus contemplatif, c'est plus lent, et voilà. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont été pris à contre-pied parce qu'ils s'attendaient à un Red Dead Redemption, à un GTA Cowboy, voilà. Tout simplement, en fait.
Alors, après, j'ai retrouvé énormément de plans de caméra, d'animation, de PNJ.
C'est normal.
Énormément de scénographie de GTA V. Franchement, j'avais vraiment l'impression de jouer à GTA V chiant.
Moi, je trouve pas. Moi, j'ai pas du tout eu l'impression de jouer à GTA, justement. Il y a même des trucs de GTA qui étaient tellement logiques.
Ne serait-ce que le gameplay qui est visé, monter un tout petit peu, tirer et ça fait un headshot, ça c'est GTA, tu vois.
Non mais d'accord, mais je veux dire
l'autolock GTA, la visée GTA.
Non mais c'est parce que c'est un titre Rockstar, mais je veux dire l'ADN des deux jeux en fait, il est différent. Tu vois, GTA c'est une critique permanente au quatrième degré de la société américaine. T'as pas ça dans Red Dead en fait.
Ouais.
Dans Red Dead t'as un parcours. Hein?
C'était quoi le sujet au début?
Mais c'était les open world. On est dedans.
Open world, ouais, trop grand.
Mais je trouve que je comprends les critiques qu'on peut apporter au jeu, mais je pense qu'on les apporte quand on se trompe de curseur par rapport au jeu, en fait, quand on attend quelque chose que le jeu n'a jamais dit qu'il était, tu vois.
À votre avis,
je pense que c'est la plus grosse erreur.
À votre avis, est-ce que ça va aller en empirant, d'après vous? Est-ce que tous les jeux vont se Star Citizeniser sur cette next-gen? Et on va terminer là-dessus, Chloé.
Réponse rapide, oui.
D'accord. Voilà. Très bien. L'âme, tu penses qu'on va vers ça?
Oui, parce que ça va être simple, parce que pour faire la synthèse de tous les sujets, on parle de l'IA. L'IA va remplir de mieux en mieux des mondes gigantesques, mais je pense aussi.
Salaud.
Et je pense qu'il faut qu'on fasse le deuil et qu'on trouve la beauté là-dedans. Moi, si un jour je suis dans un jeu vidéo qui est trop grand pour moi et que mon action se déroule dans un truc spécifique dans le jeu, ça me donnera le vertige et je trouve ça aussi cool parce qu'on a été habitué à avoir des jeux trop petits. Donc, en fait, on faisait tous les recoins de chaque salle pour ouvrir tous les coffres et cliquer sur tous les murs parce que c'était aussi des, les jeux vidéo étaient trop petits à l'époque parce que c'était, voilà, c'était des limitations de tout.
S'il c'est des limitations techniques, ouais.
Voilà. Et on en a fait un art. Donc, aujourd'hui, de dire, ah, mais les jeux vont être trop grands parce que peut-être qu'on arrive au point où les jeux à l'Ubisoft sont trop grands par rapport au game design qui, lui, n'a pas autant évolué que la taille du jeu. Mais voilà, si on arrive à un moment où, en fait, le jeu est de toute façon immense, et on l'a un peu vu, voilà, avec les Space Sim, et qu'on l'accepte, et ben moi, je trouve ça hyper agréable, personnellement. Ça me détend.
C'est une jolie façon de voir la vie. Daz.
Elite est trop grand.
Ouais, moi je partage. Oui, Elite est gigantesque, mais je partage en fait. Je pense que la limitation des jeux, c'était strictement à cause d'une limitation hardware. Maintenant que les consoles sont en SSD, NVMe, machin, mon truc, je pense qu'on va plutôt encore plus aller vers du contenu trop grand pour une seule vie, tu vois. Et personnellement, moi, je suis un élitos convaincu, 400 milliards de systèmes, donc ça ne me dérange pas du tout de ne pas voir les 95% du terrain de jeu, ça me dérange pas.
Mais tu vois, parce qu'on sait vaguement que c'est intéressant, mais bon.
Ah, mais tu vois, des gens qui ont des souvenirs, des trucs que d'autres n'ont pas vu, et justement, ça, c'est un chouette
ouais,
truc.
Ouais, ça, c'est chouette. Moi, j'aime bien.
On termine avec toi, Fibre.
Je pense que j'ai émis cette idée d'ailleurs assez maladroitement dans cette chronique aujourd'hui, donc c'est peut-être quelque chose, un constat qui va, si tu veux, à la réponse, oui, ça va, les open world vont grossir parce que ça va être une course à l'échalote, mais on va arriver à un point de crise où en fait les gens vont dire c'est bon, on en a marre, c'est trop gros. Il y a aussi, imaginez le drame de tous ces gens, et il y en a beaucoup qui sont des complétionnistes, qui vont pas pouvoir faire leur jeu en entier, ils vont devenir fous. Et donc, à mon avis, il va y avoir une crise, et après les jeux vont reprendre une
Mais ça normale. Ça sera peut-être, et c'est ce que j'appelle personnellement de mes voeux, ça sera peut-être la fin de ces putains de succès qui sont arrivés avec la Xbox 360, que personne n'avait demandé. Et ça sera la
de Ken ou les jeux à l'envers qui étaient des manières artificielles d'augmenter bah ouais. ton engagement avec un jeu, hein, Fibre.
Exactement, exactement. Ça sera peut-être la fin de ça.
Cache-misère.
Je pense pas que ce soit la fin des achievements avant très longtemps. Parce non, que c'est un méta-jeu. Mais bon, c'est pas.
C'est la durée de vie de beaucoup de jeux.
Bah, c'est exactement ça. En fait, c'est un truc qui était effectivement fait pour que tu ponces le jeu dans tous les sens. Maintenant que le jeu il est plus grand que la vie, est-ce que t'as vraiment un intérêt à te dire j'ai visité tous les systèmes dans Elite Dangerous? Ça n'existe pas. Il y a zéro succès. Enfin, tu vois, c'est normal. Il y a plus besoin en fait de cacher la misère. Donc,
j'ai pas envie de relancer le débat parce que je suis vraiment claqué. Mais en fait, la chronique elle parlait surtout du travail d'humain, d'artistes, des mecs qui ont fait le petit village, ils l'ont designé, ils ont fait une petite vie dedans, et ce village t'ira jamais en fait. Voilà, c'est ça le truc.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu différent de Elite.
Et ben justement, je pensais à ça avant que tu ailles dormir, je te posais cette question, Fibre.
Ouais.
Est-ce que tu trouves pas ça plus naturel que un univers immense se déploie selon des règles, j'ai envie de dire, de la nature? Parce qu'en fait, du coup, t'as une vision très créationniste du jeu vidéo, parce que t'es heureux que le jeu vidéo, le monde dans lequel tu vis, en fait, une main invisible ait posé cet arbre ici et que rien ne soit posé. Enfin, tout est un.
Mais c'est aussi ça dépend comment tu envisages le jeu vidéo. C'est-à-dire que si effectivement tu dis, je veux que ce soit un monde réel et vivre dans ma bulle, enfin, comme dans la vie réelle, je sais pas trop. Moi, ce que j'aime, c'est cette idée tu connais ce monde par cœur.
Non, mais imagine que t'as un monde qui a été créé de manière justement plus naturelle que la manière dont elle est créée aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle qui va suivre les règles de la nature, on va dire, et puis que dessus, en fait, des développeurs, ils posent des villages là construits par des hommes, ou même qu'une intelligence artificielle suivre des règles de ce qu'étaient les technologies à l'époque, les gens à l'époque, etc. Et je trouve pas ça, c'est pas moins bien. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, je me rends compte qu'on a une vision hyper créationniste du jeu vidéo. C'est vraiment la main de Dieu qui est le game designer, le level designer, qui fait que partout tu te balades, tu dis oh, c'est un quelqu'un qui a posé ça là. Il n'y a pas de hasard, tu vois. Et en fait,
c'est tout l'inverse de Minecraft, quoi.
Bah tout l'inverse de la vie, effectivement. Et je me dis si dans un univers qui m'intéresserait, c'est un univers qui mélangerait les deux, où quelque chose est fait par la nature, j'ai envie de dire. Enfin voilà, quelque chose qui n'a pas de valeur ou qui n'a pas de dessin, Et puis dessus, des développeurs, ils vont y poser des choses qui ont des dessins qui seront des villes ou des citadelles ou des choses comme ça, peut-être.
J'y crois. Mais ça m'empêchera pas d'être triste de ne pas pouvoir apprécier un jeu dans son intégralité.
Triste fibre, mais heureux de pouvoir retrouver ton lit. C'est la fin de ce quête latéral. Merci à tous de nous avoir écoutés. Désolé, c'est encore très très long, mais que voulez-vous ? Il y a des sauts temporels aussi importants entre chaque quête à cause de la conjoncture actuelle. C'est toujours évidemment un peu compliqué. Merci beaucoup, Fibre, Daz, Lame, Chloé. Merci à vous.
Merci.
Tous.
Merci à toi, Ken.
Merci, Ken.
Éventuellement aussi. Et bien sûr, n'hésitez pas toujours le Discord de qualité et soutenir l'effort de guerre par ici pour vous proposer des podcasts toujours meilleurs et toujours plus longs. C'est terrible. Voilà. Problème du riche, comme on dit.
Est-ce que c'est pas le Red Dead Redemption du podcast qu'on fait finalement?
J'avoue, oh, alors, quel enfer. Hein. Non, mais non, c'est pas possible. J'écouterai quand même cette VOD, bien entendu. Bisous à tous.
Et à bientôt. Des gros bisous.
Bisous.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.